voilà, hier soir, nous avons commencé à lire ces textes des évangiles concernant la passion de Jésus. Et nous avons lu le premier, le plus ancien, celui de l'évangile selon Marc. Ce soir, nous allons lire celui qui est rapporté par Matthieu. Comme j'ai résumé hier celui de Marc en disant « c'est un scandale », ici je résumerai, bien que ce soit incomplet comme formule, pour Matthieu en disant « c'était écrit ». Et Matthieu va être beaucoup plus insistant que Marc pour indiquer que les textes de l'Ancien Testament rapportait un certain nombre de détails qui, pour lui, se sont déroulés au cours de ces événements de la Passion. Juste quelques renseignements à propos de Matthieu. On est convaincu aujourd'hui, tous les spécialistes pourraient vous le dire, que Matthieu a écrit avec le texte de Marc en mémoire, ou avec le texte de Marc sous les yeux. Il y a un débat aujourd'hui sur l'utilisation de l'écrit et beaucoup pensent que la mémoire était beaucoup plus vive que l'on imaginait et que la façon dont Matthieu a écrit pouvait simplement se fier à la mémoire qu'il avait de ces textes qui étaient lus, relus dans les communautés chrétiennes primitives. Ensuite, Marc a écrit pour des chrétiens d'origine juive. Et le projet de Matthieu n'est pas d'abord de raconter l'histoire avec les événements, mais c'est avant tout de donner un enseignement à ses lecteurs, de leur dire, en quelque sorte, voilà ce que vous devez savoir en tant que chrétien. C'est un espèce de catéchisme, si vous voulez. C'est un livre qui va être utilisé à maintes et maintes reprises dans l'histoire du christianisme pour catéchiser les enfants comme les adultes et leur apprendre ce qu'il faudrait savoir à propos de Jésus. Et en particulier où on va présenter Jésus comme un enseignant, comme quelqu'un qui est lui-même un enseignant à propos de Dieu et à propos des textes sacrés de l'ancien Israël. Alors, nous allons procéder comme nous l'avons fait hier, en suivant les grandes étapes de ce parcours, l'arrestation, le procès juif, le procès romain, l'exécution, puis la mise au tombeau. Mais cette fois-ci, ce que nous allons faire, c'est que je ne vais pas reproduire tout le texte de Matthieu, en particulier chaque fois qu'il est parfaitement identique à celui de Marc. Ce que je vais vous mettre en évidence, ce sont les particularités de Matthieu qui vont apparaître en rouge à l'écran, où Matthieu diffère de Marc. Et de temps en temps, cette différence sera aussi que Matthieu élimine certains éléments du texte de Marc, et à ce moment-là, ces éliminations apparaîtront comme un texte en noir rayé, de façon à ce que vous puissiez suivre assez facilement. Dans la scène de l'arrestation, les choses se racontent à peu près de la même façon, sauf que quand Judas intervient et lui donne ce baiser qui va le désigner à ceux qui sont venus l'arrêter avec des gourdins, des armes, Jésus va prendre la parole. Et d'après Matthieu, Jésus dit à Judas quelque chose, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Et donc on a un Jésus qui est plus bavard chez Matthieu que chez Marc. Le Jésus de Marc parle très peu. Celui de Matthieu va parler davantage. Et ici, c'est assez frappant de voir que Jésus, d'abord, n'est pas agressif envers Judas, mais que, d'après Matthieu, il est en tout cas résolu à passer par cette étape de l'arrestation. Judas trahit. D'après ce qui précède dans l'évangile, Jésus sait que Judas est le traître. Il sait que ce baiser est le signe de cette traîtrise. Et ce qu'il est en train de dire, eh bien, je ne vais pas résister, fais-le. Ensuite, lorsque l'un des assistants va prendre l'épée, Matthieu va préciser que c'est quelqu'un qui est du côté de Jésus. Il est avec Jésus. Alors que pour Marc, c'était quelqu'un qui était là présent. Celui-là va prendre l'épée et va provoquer un deuxième discours de Jésus. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » On est là devant un condensé de citations du psaume 55. Et ensuite, Jésus poursuit son discours, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père ?» qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi ? Donc Jésus, vous le voyez, est nettement plus bavard. Mais ce que Jésus fait, c'est un enseignement. Jésus enseigne la non-violence, il explique que celui qui prend l'épée risque bien de périr par l'épée, et il donne aussi une autre information, certes qui est une information de foi, où il dit, voilà, j'ai un père et je pourrais l'invoquer et je serai défendu par des légions, pas romaines, mais des légions d'anges. Alors il est évident qu'on n'est pas obligé de croire à cette déclaration, mais Matthieu est en train de camper un personnage de Jésus qui détient, par sa relation avec Dieu qui est considéré comme son père, un pouvoir assez extraordinaire. Et puis, on a la répétition qu'il s'agit bien d'accomplir ce que les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, avaient prédit. Et un peu plus loin, Matthieu va à nouveau citer cette raison, c'est afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Il précise ici, les prophètes, c'est l'une des catégories de textes de l'Ancien Testament. Donc si on fait un petit bilan de la façon dont Matthieu raconte l'arrestation de Jésus, on va dire qu'il mêle des discours aux faits, qu'il nous présente un Jésus qui sait et qui accepte le sort qui l'attend, mais qu'il enseigne toujours, y compris dans cette circonstance. Le renvoi aux Écritures est fait, il est même fait doublement, et spécialement avec une mention des prophètes. Et on constate, en comparant avec Marc, qu'il n'y a pas cette petite anecdote pittoresque de ce jeune homme qui s'est enfui tout nu parce qu'on a attrapé le drap dont il était vêtu, mais à la place, on a un Jésus qui détient par sa foi en Dieu ou qui prétend détenir un pouvoir extraordinaire d'être défendu par des armées d'anges. Donc voilà le tableau par lequel Matthieu nous fait entrer dans ces événements. Deuxième scène, le procès juif. Alors, un découpage est assez semblable à celui de Marc, sauf que on va avoir un épisode supplémentaire qui est là à la fin et que j'ai intitulé « Le prix du sang ». Et nous allons voir ça. La première chose qui diffère le texte de Marc et celui de Matthieu, c'est que Matthieu va préciser le nom du grand prêtre chez qui les choses se passent. Il s'appelle Caïphe. Ensuite, il va nous dire que les faux témoins sont au nombre de deux, donc il est un petit peu plus précis, même s'il est moins détaillé sur la description de l'accusation concernant la destruction du temple. Ensuite, quand le grand prêtre intervient, son discours est est plus fort. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils du Dieu béni. » Non, le Fils du Dieu, de Dieu simplement, dit Matthieu. Et Jésus va répondre de façon un peu plus indirecte. Au lieu de dire « Je le suis », comme chez Marc, il va dire « C'est toi qui l'as dit ». Il ne conteste pas, mais il dit en quelque sorte « J'accepte la formulation que tu proposes ». Ce n'est pas comme ça que moi, peut-être, je formulerai les choses, mais ta proposition de formulation est acceptable. Et il reprend, comme chez Marc, « Mais vous verrez le Fils de l'homme », ce qui est une désignation que Jésus préfère d'après l'ensemble des évangiles. Lorsque on injure Jésus, qui a ces scènes d'outrage, on va voir que les gens qui le frappent vont préciser qu'il s'adresse au Christ, à quelqu'un qui est un prophète. Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé, pas simplement devine comme chez Marc. On va préciser aussi dans le langage que l'apôtre Pierre, au moment où il va trahir, renier son maître, va être interpellé par des personnes différentes. D'abord une servante qui s'approche et qui lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen, pas de Nazareth, donc la formulation est un peu différente. » Pierre nie. Ensuite, une deuxième fois, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante. Une deuxième fois, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante. Et là, cette fois-ci, elle va argumenter. « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et la réponse, la deuxième négation de Pierre, c'est avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Et puis, la dernière de ces interpellations de Pierre, c'est un groupe, cette fois-ci, c'est pas un individu qui l'interpelle et qui lui dit « Ton langage te fait reconnaître. » Et ceci est une indication que l'on peut vérifier par l'histoire. Les Galiléens étaient perçus comme ayant un accent lorsqu'ils parlaient le langage araméen, qui était le langage courant à Jérusalem à cette époque, qui les faisait facilement reconnaître des Judéens. Et donc c'est sur cet accent que Pierre a quand il parle que on l'accuse d'être l'un de ces gens-là. Et Pierre va faire les imprécations et jurer ne pas connaître Jésus. La seule autre adjonction de Matthieu par rapport à Marc, c'est de dire que c'est qu'une fois Pierre sorti qu'il s'est mis à pleurer, et Matthieu va préciser qu'il pleure amèrement. Donc que c'est quelque chose de douloureux pour lui, ce qui vient de se passer, et ce coq qui a chanté qui lui rappelle ce que Jésus a dit. Ensuite, on va nous dire, comme chez Marc, que c'est le matin que la délibération du conseil va avoir lieu, qu'on va prendre une décision contre Jésus pour le faire mourir. Cette fois-ci, Matthieu ne place pas le Sanhédrin au moment de cette décision. Il va simplement dire « les chefs des prêtres tinrent conseil ». C'est donc possible que dans la conception de Matthieu, ce ne soit pas l'ensemble du Sanhédrin qui ait pris cette décision, et donc que cette décision puisse être considérée comme non valide. Donc voilà comment Matthieu raconte le procès juif. Mais il va ajouter cette section que j'ai appelée tout à l'heure le prix du sang et qui concerne Judas et qui était totalement absente de chez Marc. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les grands prêtres les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Citation de Zacharie. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Citation du prophète Jérémie. Alors vous voyez que Matthieu ajoute un certain nombre de détails au texte de Marc, et il ajoute par souci de pouvoir dire que ce qui se passe est conforme au texte de l'Ancien Testament, avec là deux citations qui viennent appuyer ce suicide de Judas qui est présenté après cette histoire du procès juif. Si donc nous faisons le bilan de cette étape-là de la passion d'après Matthieu, Matthieu nomme le grand prêtre, Caïphe, il suit Marc mais ne mentionne pas le Sanhédrin pour la délibération nocturne et pas pour la décision du petit matin, et il ajoute la fin de Judas avec le prix du sang et deux citations de l'Ancien Testament. Voilà quelque chose qui nous met bien dans cette perspective où Matthieu est en train de donner un enseignement à des gens pour qui l'Ancien Testament a une grande valeur et qui fait référence. Il essaye de les convaincre que ce qui se passe avait été prédit. L'étape suivante, c'est le procès romain. Dans le procès romain, eh bien, on a toujours donc les chefs du temple qui vont conduire Jésus chez Pilate, le gouverneur romain, et Pilate va l'interroger. Et on va voir que Jésus ne fait aucune réponse, exactement comme chez Marc. Et Matthieu ajoute que ça étonna beaucoup le gouverneur. Et on va voir que Matthieu semble avoir l'habitude d'appeler Pilate le gouverneur, et pas simplement Pilate. Et cet étonnement, il est plus ample, plus important que chez Marc. Il nous parle de la coutume qu'avait le gouverneur de relâcher un prisonnier, et il nous précise que le Barabbas, mentionné aussi par Marc, s'appelait Jésus Barabbas, et que c'était un prisonnier fameux. Il entre un peu moins dans les détails de ce qu'il a commis, mais il va proposer le choix au peuple qui est là. Lequel voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ? Il ne reprend pas l'expression « roi des Juifs », il reste sur l'accusation religieuse, pas politique. Et ensuite, il y a une petite scène qui est typique de Matthieu et qui n'existe chez aucun autre évangile. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, c'est-à-dire la femme de Pilate, le gouverneur, lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, intervention de Madame Pilate, quelque chose qui était totalement inconnu ou mentionné par les autres. Et après ça, eh bien, on voit bien qu'il y a toujours cette intervention des grands prêtres qui veulent que la foule prenne position contre Jésus et pour Pilate. Et Pilate répète la question, la foule va demander la relaxe de Barabbas et Pilate va poser la question chez Matthieu, alors qu'est-ce que je fais de ce Jésus qu'on appelle le Christ ? Et vous remarquez, Matthieu est insistant, son problème est un problème religieux. Il enseigne à des gens qui ont une religion, qui sont des juifs, même si certains sont des chrétiens, d'origine juive, ou d'autres des sympathisants au christianisme d'origine juive, ce qui l'intéresse, c'est de parler du Christ, ce qui est une notion typique juive. Je vous rappelle que Christ, ça veut dire Messie en hébreu, et en grec, ouin, c'est-à-dire une personne qui est désignée pour une mission spéciale. Et à ce moment-là, le gouverneur va dire « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et une scène tout à fait particulière, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et la réaction du peuple, qui a été malheureusement une des sources dans l'histoire des relations entre chrétiens et juifs, d'actions souvent antisémites, et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc on a une insistance plus grande chez Matthieu sur l'innocence de Jésus et sur le fait que Pilate le reconnaît comme un juste, mais qu'il se lave les mains et qu'il fait peser toute la responsabilité sur le peuple dont la pensée est excitée par les grands prêtres. Après ça, bien, on va nous parler des moqueries. Ce sont toujours les soldats du gouverneur, ils sont là autour de lui, et comme Matthieu, il va dire toute la cohorte, on lui ôte ses vêtements, on le couvre d'un manteau écarlate, on lui tresse une couronne d'épines, et on lui met un roseau dans la main droite, comme si c'était un sceptre pour dire qu'il est roi. Et on va se moquer de lui, et cette fois-ci arrive l'accusation, « Salut, roi des Juifs !» comme chez Marc. Après ça, bien, on va lui ôter le manteau plutôt que la pourpre, donc c'est un petit peu plus discret, dirions-nous. Et puis ensuite, eh bien, on va nous rappeler ce chemin de croix. Lorsqu'ils sortirent, eh bien, on força un homme à porter la croix de Jésus, et cet homme, c'est Simon de Cyrène. Matthieu laisse tomber la mention de père d'Alexandre et de Rufus, et on va nous dire simplement qu'arrivé au Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, va avoir lieu l'exécution. Donc on se rend compte que, d'après le procès romain, ce sont les chefs juifs qui sont contre le Christ, d'après ce que Matthieu comprend et explique. Que c'est un procès qui certes a une dimension politique, mais plus discrète, mais beaucoup plus religieuse. Qu'il va y avoir le choix offert entre deux Jésus, le Jésus Barabbas et le Jésus Christ. Qu'il va y avoir des traitements brutaux et humiliants pour lui. Et puis il y a ces deux épisodes complètement nouveaux de Madame Pilate qui intervient et de la mention de Pilate qui s'en lave les mains. Voilà donc comment Matthieu décrit le procès romain. Et on se rend compte que Pilate, qui est toujours appelé le gouverneur, semble être un peu plus favorable à Jésus que chez Matthieu, que chez Marc, pardon, mais que finalement il a une certaine lâcheté qui se manifeste là, et en particulier par le geste de se laver les mains, qui est d'ailleurs devenu proverbial dans la langue française, comme dans bien d'autres langues, à propos d'un acte où on dégage sa responsabilité. Voilà donc comment Matthieu traite du procès romain. Arrivons maintenant à l'exécution. On lui donna à boire du vin mêlé de fiel, ce que ne disait pas Marc, et c'est une citation d'un psaume 69, 22, alors que Marc disait de myrrhe. Et quand il l'eut goûté, il ne le prit pas. Ensuite, il y a le partage des vêtements, et on précise afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Et c'est un texte du psaume 22 qui est cité, où il dit « Ils se sont partagés mes vêtements en tirant au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. » Donc il n'y a pas beaucoup de différences, mais des ajouts, et encore une fois, on voit que Matthieu cherche des occasions de citer l'Ancien Testament. Et puis, on nous parle de l'inscription qui ne se contente pas de dire « Jésus, roi des Juifs », mais « Celui-ci est Jésus, roi des Juifs ». Il y a toujours la mention des brigands. Et puis, quand on en arrive aux injures des différents passants, alors il y a cette interpellation « Si tu es le Fils de Dieu ». L'expression « Fils de Dieu » revient à ce moment-là, ce qui... était beaucoup plus discret chez Marc que chez Matthieu. Après ça, il va y avoir, là encore, les grands prêtres qui vont faire une accusation beaucoup plus politique que religieuse. Au lieu de dire « s'il est le Christ », ils vont dire « s'il est le roi d'Israël ». Et puis, il y a cette autre moquerie encore, donc il s'est confié en Dieu, « Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime !» Ce qui est une nouvelle citation du psaume 22. Et il précise, car il a dit « Fils de Dieu ». Donc, on se rend bien compte que là, il y a à la fois une accusation politique dans ses injures, mais une accusation religieuse de blasphème. Il a dit « Je suis fils de Dieu ». Et donc, si Dieu l'approuve et s'il l'aime, eh bien qu'il intervienne. Enfin, on nous dit aussi que les brigands l'injuriaient de la même manière. Voilà donc ce qui arrive. Ensuite, le cri de Jésus sur la croix est légèrement différent. Ce n'est plus « Eloi, Eloi » que dit Jésus, c'est « Eli, Eli, lama sabachthani ». Ce qui semble être plutôt de l'hébreu que de l'araméen. Et là encore, c'est la même citation qu'on avait chez Marc du début du psaume 22 pour lancer ce cri de quelqu'un qui se sent abandonné de Dieu. On a un nouveau moment où on parle de lui donner à boire. Il appelle Élie, aussitôt l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, mais les autres vont dire, laissons, voyons si Élie viendra le descendre. Donc visiblement, le Élie qui est prononcé là et qui en hébreu veut dire le Dieu de moi, elle, Dieu, I, c'est la terminaison qui indique l'adjectif possessif de la première personne du singulier, n'est même pas compris par ces gens-là qui ne parlent plus l'hébreu, qui est devenu une langue morte à leur époque. Enfin, Matthieu va ajouter quelque chose d'assez simple. Au lieu de dire simplement que Jésus expira, il va dire qu'il rendit l'esprit. Il mentionne le voile du temple qui se déchire, comme Marc. Mais il va ajouter quelque chose. La terre trembla. Les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alors c'est sûr que c'est extrêmement surprenant de voir une manifestation aussi impressionnante. Tremblement de terre, sépulcre qui s'ouvre, résurrection de morts. Et après ça, il va nous mentionner la confession du centurion que Marc avait mentionné, mais en ajoutant qu'il n'est pas seul. Le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, pas simplement l'agonie de Jésus sur la croix, et ceux qui étaient arrivés furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu ». Donc on a une confession tout à fait comparable, mais cette fois-ci, elle est présentée collectivement. Alors, évidemment, le texte va se terminer aussi avec la mention des femmes, ces femmes qui avaient accompagné Jésus pour le servir. Elles sont nommées, il y en a une qui est présentée comme Marie de Magdala, l'autre Marie, mère de Jacques et de Joseph. et la mère des fils de Zébédée, qui, dans la tradition, s'appelle Salomé, ce qui est une autre désignation des mêmes personnes que celles que Marc avait signalées. Si on fait un bilan de la façon dont Matthieu traite de cette exécution, on va nous dire que, enfin dire que ce qui est le plus frappant, ce sont ces manifestations extraordinaires. Or, pour les comprendre, il faut se dire que dans l'esprit des Juifs, le tremblement de terre, l'ouverture des sépulcres, la résurrection des morts, c'est quelque chose qui leur fait penser à la fin du monde qu'ils attendent. Par contre, le fait que la profession de foi du centurion soit une profession de foi collective, c'est une manière pour Matthieu de dire que, effectivement, la mort de Jésus marque la fin d'un monde, et en particulier la fin de ce monde juif et du judaïsme pur et simple. Mais que ce centurion romain et ceux qui sont avec lui et qui confessent que le personnage qui est là et que les événements impressionnants qui accompagnent sa mort, cette confession qu'il était assurément fils de Dieu, fait qu'on commence à voir pour Matthieu se désigner un nouveau peuple, qui n'est plus le peuple juif exclusivement, mais qui est ce peuple que Matthieu a deux ou trois fois dans son texte désigné par le mot « église ». En quelque sorte, on pourrait dire que ce que Matthieu est en train de dire, eh bien, ces événements sont conformes à ce qu'enseignait l'Ancien Testament. Ils marquent la fin d'une étape de l'histoire qui était centrée sur le peuple d'Israël, et ils marquent l'ouverture d'une nouvelle histoire qui va être centrée sur une église, une assemblée de croyants qui vont reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, Messie, quelle que soit leur origine ethnique. Et donc, beaucoup de lecteurs de ce texte se disent « Il ne faut pas forcément prendre ce tremblement de terre et ces sépulcres qui s'ouvrent et ces morts qui reviennent à la vie comme quelque chose qui, pour Matthieu, serait factuel, événementiel, mais plutôt comme un langage qui est en train de dire « voilà ce que cela signifie ». On pourrait presque ajouter, d'après cette compréhension des choses, que c'est comme si la fin d'un monde était venue et le début d'un nouveau monde était amorcé. Donc voilà comment certains historiens nous invitent à regarder ce texte assez surprenant de Matthieu à propos de l'exécution et de la mort de Jésus. Enfin, la mise au tombeau, on va avoir un récit qui ressemble beaucoup à celui de Matthieu, simplement que le personnage, Joseph d'Arimathée, est présenté un petit peu différemment. On va nous dire que c'est un homme riche et on va nous préciser qu'il n'est pas simplement quelqu'un qui attend le royaume de Dieu, mais quelqu'un qui était aussi disciple de Jésus. Donc Matthieu est beaucoup plus affirmatif sur la position de ce personnage. Et il va se rendre chez Pilate et Pilate, eh bien, va ordonner de lui remettre le corps de Jésus. On va préciser que le linceul qu'il a préparé est blanc, que le tombeau dans lequel il va le déposer est neuf, et que c'était un tombeau qu'il s'était taillé ou qu'il s'était fait tailler, et que la pierre qui va être roulée à l'entrée de ce sépulcre était grande, et qu'une fois cette tâche accomplie, Joseph s'en va, quitte les lieux. Par contre, Marie de Magdala, l'autre Marie, est là, assise vis-à-vis de ce tombeau. Voilà donc comment l'intervention de Joseph est racontée par Matthieu et comment la présence des femmes est là. Mais Matthieu nous ajoute un autre épisode encore. Le lendemain matin, qui était le jour après la préparation, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Voilà donc comment Matthieu raconte cette affaire de la mise au tombeau. Alors on voit que la présentation de Joseph d'Arimathée est un peu différente et qu'il y a une affirmation directe qu'il est disciple de Jésus. Et puis il y a toute cette histoire supplémentaire de la garde du tombeau. Et on sent bien que quand Matthieu fait ça, il veut encourager des gens qui sont juifs et qui sont disciples, et qu'il est en train de leur dire « des précautions ont été prises pour s'assurer que la résurrection n'est pas un mensonge ». Du moins, c'est comme ça qu'il va le prendre, lui, puisqu'il va raconter la résurrection, alors que les gens, et en particulier les chefs du temple, mais aussi les pharisiens, voulaient prévenir ce qu'ils appellent une imposture pire que la première. Voilà donc comment Matthieu décrit cet épisode de la mise au tombeau. Donc on voit donc que le texte de Matthieu est finalement plus long que... Quand je le résume en vous disant « c'était écrit », on a une abondance de citations de textes de l'Ancien Testament. On a un Matthieu qui cherche à encourager les chrétiens d'origine juive à comprendre le sens de la mort de Jésus en relisant l'Ancien Testament. C'est comme s'il leur disait « voilà, il y a des événements qui se sont passés, relisez les textes que vous valorisez dans votre foi ». Et vous verrez que quantité de détails étaient prévus, et donc que ce qui s'est passé est conforme à ce que vos textes prédisaient, et donc que ce Jésus n'est pas à prendre comme ça à la légère, que pour vous, ça doit être un personnage important. Il est Seigneur, il a une autorité particulière, il va se placer en juge. Certes, il est jugé, on doit faire un choix entre Barabbas et lui, mais il est déclaré par Pilate juste, et on a l'impression déjà que son silence est juste, et on a l'impression déjà que son silence est une façon de juger. Et en tout cas, Marc ne se gêne pas de juger ceux qui ont poussé à sa condamnation, c'est-à-dire les chefs qui ont excité la foule devant Pilate, à endosser la responsabilité. Et il va même dire que ces gens-là l'endossent vraiment, puisqu'ils vont prononcer ce texte « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants », qui est un texte absolument terrible. Et je rappelle que l'impression, c'est que sa mort est l'indication de la fin d'un monde mais qu'il est déjà le pressentiment qu'un nouveau peuple se dessine. Voilà donc comment je me permets de résumer devant vous ce que je crois comprendre de ce récit fait par l'Évangile selon Matthieu de la mise à mort de Jésus. C'est différent de Marc, tout en étant très proche. C'est la raison pour laquelle la plupart des historiens ne contestent pas le schéma général. Le type d'accusation qui fait que Jésus est mort, c'était un gêneur pour la religion juive et probablement un concurrent pour l'autorité romaine. Évidemment, on peut toujours discuter de la validité historique de certaines paroles, et ça, c'est invérifiable, mais on a de la part de Matthieu un enseignement qui est destiné à des gens dont le background, dont la formation s'est faite en lisant l'Ancien Testament, pour que ces gens-là comprennent ce qui s'est passé à l'aide de leur bagage, de leur patrimoine éducatif et religieux. Voilà donc ce que cette façon de raconter les choses me dit à moi et que je partage avec vous ce soir. Comme les autres soirs, je vous propose, si vous le souhaitez, de pouvoir poser des questions. Vous avez ménagé un petit peu plus de temps ce soir pour cela, parce que les choses deviennent forcément un peu plus compliquées, et vous pouvez commencer à comprendre pourquoi certains disent « c'est une véritable cacophonie, cette histoire de la Passion », puisque les textes ne disent pas tous exactement la même chose. Mais est-ce vraiment une cacophonie ? Ou est-ce quelque chose qui va ressembler davantage à une symphonie? On verra ça les autres soirs. Voilà donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis prêt à dialoguer avec vous avant de terminer cette soirée. Alors, oui? Oui. Il n'y a que Matthieu qui en parle. Alors c'est vrai qu'après ça, on va avoir des pères de l'Église qui vont rapporter cette histoire, qui vont nous dire comment elle s'appelait, qui vont nous dire qu'elle s'appelait Procula, qui vont nous détailler un petit peu ce rêve qu'elle a eu pendant la nuit, qui l'a tourmentée, qui vont essayer de broder sur cette histoire. Mais sur ces textes anciens qui ont valeur historique, Matthieu est le seul à évoquer cet épisode. Oui. C'est vrai, mais alors, le même texte, et je vous l'ai fait remarquer, disait qu'il a creusé lui-même cette tombe. C'est-à-dire que, dans bien des cas, le langage peut se permettre un raccourci et de dire qu'il roule la pierre ou qu'il creuse la tombe ou qu'il la taille dans ce roc, alors que c'est à son initiative que ça a été fait, c'est une façon de faire les choses. Nous, si on voulait être très précis, on emploierait un factitif. Il l'a fait faire, il l'a fait rouler ou il l'a fait tailler. Mais c'est vrai que quand on résume les choses, on peut très bien dire, comme on le dit souvent en français, voilà, il a roulé la pierre, il a taillé ce sépulcre. Donc, je ne crois pas que l'intérêt de ces textes soit de pinailler des fois. C'est vrai que c'est intéressant de remarquer certains détails qui peuvent contribuer à l'enseignement. Mais ici, Matthieu ne va pas plus en détail que Marc. C'est le personnage qui intervient, c'est son initiative, c'est lui qui est mis en avant. Qu'il soit aidé ou non ne semble pas préoccuper ces deux rédacteurs-là. Oui ?
Je suis le Fils de Dieu, ce qu'il ne dit pas, parce que le centurion ne dit pas, parce que
non.
Le centurion dit, il est Fils de Dieu.
Voilà. Tout à fait. Alors, c'est vrai que ces expressions peuvent avoir chacune deux sens bien différents. En général, dans la mentalité hébraïque, il n'existe pas tellement de mots pour dire ce que nous appelons une catégorie. Par exemple, un menteur, on va dire un fils du mensonge. Quelqu'un qui est malhonnête, on va dire un fils de malhonnête. C'est-à-dire que l'expression « fils de » peut très bien être traduite dans quantité de circonstances par l'expression « appartenant à telle ou telle catégorie ». Alors c'est vrai qu'on a quantité de textes dans la Bible où l'expression « fils d'homme » veut dire simplement « un être humain », qui est un descendant d'être humain. On va trouver ça très fréquemment, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel. Et on va le trouver dans un certain nombre d'autres textes aussi, dans le Nouveau Testament. Fils de Dieu, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, tout être humain est fils de Dieu si l'on admet la façon dont la Bible raconte la création des êtres humains. Ils ont été faits par Dieu, inventés par Dieu, créés par lui. Et dans ce sens-là, ils peuvent tous être appelés ses fils. Mais il est évident que quand Jésus emploie ces expressions ou quand on considère que l'employé, les employés à propos de Jésus, c'est blasphème, c'est que l'expression « fils de Dieu » employé à propos de Jésus, c'est blasphème, c'est que l'expression « fils de Dieu » est employée avec un sens plus fort. Dans les psaumes, par exemple, il va y avoir une prière qui est faite chaque fois qu'un nouveau roi monte sur le trône, son père étant décédé. Et on va utiliser ce psaume en disant « Seigneur, accomplis ce rêve-là, dis ce que tu as promis, celui-ci est mon fils. » Et c'est d'ailleurs la citation qui sera utilisée à l'occasion du baptême de Jésus dans les évangiles. « Celui-ci est mon fils, c'est-à-dire je le choisis. » Je fais de lui un fils spécial pour moi. Alors c'est évident que celui qui accepte qu'on l'appelle fils de Dieu dans ce sens-là peut être considéré par quelqu'un d'autre comme un blasphémateur. Il sort du lot général de l'humanité, il n'est pas un simple fils de Dieu, mais il est le fils de Dieu, dira-t-on en français. Et ça va être considéré comme blasphématoire. Quant à l'expression « fils de l'homme », alors c'est vrai qu'elle est employée dans ce texte-là, et en particulier au cours du procès juif, lorsque le grand prêtre interroge Jésus et lui demande « Es-tu le fils du Dieu, de Dieu ?» Dans Marc, il va dire « Je le suis ». Dans Matthieu, il va dire « C'est toi qui l'as dit ». Et donc, il va tout de suite dire « Mais désormais, vous verrez le fils de l'homme venant sur les nuages du ciel ». Et il cite là un texte de l'Ancien Testament, qui est un texte de Daniel, qui, au chapitre 7, est présenté en contraste avec les autorités qui se sont succédées, qui sont des empires, empire babylonien, empire des Mèdes et des Perses, des Grecs, empire romain, qui sont présentés comme des prédateurs, sous la forme d'animaux même monstrueux qui ne correspondent à aucun animal de la réalité. Et en contraste, on va dire, voilà, de même que ces puissances fonctionnent malheureusement trop souvent vis-à-vis des hommes comme des prédateurs, va arriver un nouveau roi qui sera véritablement fils d'homme, c'est-à-dire l'homme tel que Dieu l'avait conçu et l'avait voulu. Et qui, lui, ne sera pas un prédateur, mais qui va pouvoir régner pour l'éternité parce qu'il veut le bien de chacun. Et bien sûr, quand Jésus cite ce texte-là, il est en train de dire, ce personnage promis, c'est-à-dire, ce personnage promis, c'est pas n'importe qui, c'est moi. Alors évidemment, ça aussi peut être considéré par certains de ses vis-à-vis, comme un blasphème, c'est-à-dire une prétention d'une outrecuidance difficile à admettre. Parce que si quelqu'un vient vous voir aujourd'hui et va vous dire « Voilà, tel texte de l'Ancien Testament, c'est moi qui l'accomplis », il n'y a qu'à voir comment notre société a traité des gens qui se proclament messie, et on va les appeler des messies autoproclamés. Et bon, vous rappelez d'un certain Bourdin, des messies autoproclamés. Et bon, vous rappelez d'un certain Bourdin à Castellane, vous pouvez vous rappeler d'un certain Moon, etc. Je veux dire, comment on traite ces gens-là dans nos sociétés? On a énormément de mal à admettre que des gens puissent s'identifier à de tels personnages.